Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Merci d'être à l'écoute, de vous abonner. Quand vous êtes sur Spotify notamment, vous vous abonnez et puis voilà, après ça, il y a une petite cloche à côté. L'app est super bien faite, puis là, vous avez une magnifique alerte qui arrive sur votre téléphone. Là, vous devenez tout excité. Oh, Tapburn vient de sortir son autre épisode. Yes! Alors, un petit sujet d'intro avant mon sujet principal. La parfaite victime, ce documentaire qui a été fait par Monique Néron et Émilie Perrault, deux anciennes qui ont travaillé chez Paul Arcand, a reçu un blâme hier de la part... on va dire Radio-Canada a reçu un blâme de la part de l'Ombudsman de Radio-Canada. Donc ça, c'est un poste qui existe à Radio-Can seulement, qui est totalement indépendant. C'est quelqu'un qui répond aux plaintes des auditeurs, des téléspectateurs, pour la radio ou pour la télé, à l'effet que quelque chose ne serait pas dans les règles de l'art ou n'aurait pas été correct ou autre. Et il a dit qu'effectivement, ce documentaire-là tournait les coins trop ronds, puis qu'une mention que c'était un travail d'opinion plus qu'un travail réellement d'une enquête journalistique rigoureuse. Ce qui avait été soulevé par, entre autres, Sophie Durocher, qui était allée voir la première, qui avait fait malaise. C'est comme on dirait que ça décourage les femmes d'aller porter plainte, que le système est un peu tout croche. Puis les deux réalisatrices disaient non, on veut juste montrer à quel point il y a des choses qu'il faut corriger. Donc, l'intention puis la job qui était faite était peut-être le fun. Sauf que il y avait dans l'article du Devoir une fille qui disait « Moi, j'ai vu ce documentaire-là, puis si je l'avais vu avant de porter plainte, je ne serais pas allé. » Ça fait que, tu sais, une certaine controverse. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous en parler de fond, mais je veux juste vous montrer encore une fois à quel point cette profession-là, avec son ordre professionnel bidon, qui s'appelle la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et qui n'a pas aucun pouvoir de coercition. Moi, je suis membre du barreau, là. Il y a plein d'affaires que je ne peux pas faire, là. Si je tombe en faillite, si j'ai un dossier criminel, c'est terminé. La licence, partie, ciao, bye. Puis c'est de même pour les ingénieurs, puis c'est de même pour les médecins. Puis tu arrives journaliste, non, pas grave. C'est comme, on y va, on s'amuse, on dit quelque chose, c'est pas clair. Le demain est un autre jour. C'est quand même extraordinaire. Si vraiment il y avait des règles qui sont outre que de juste la belle déontologie, Puis je sais bien que les journalistes, dans la très grande majorité, pour ne pas dire à peu près tous, là, ce que je vois, suivent ça. Donc, ils s'auto-régulent assez bien, mais ils restent que sérieux, là. Puis rappelez-vous le documentaire de Enquête à Radio-Can qui était allé à Val-d'Or, là, il y avait une plainte, pas une, des plaintes, il y était genre une dizaine de femmes autochtones qui disaient qu'elles avaient été abusées par la SQ. C'est tout tombé, pouet, pouet, pouet. Tu fais, attendez une minute, là, c'est-tu le perron de l'Église, votre affaire? Vous pouvez faire comme ça, oui, on donne des témoignages, on essaie de vérifier. Voilà, on trouve que c'est suffisant, pouf. Moi, j'en reviens pas. C'est comme... Puis d'ailleurs, si vous trouvez que vous avez des problèmes, si les journalistes trouvent qu'ils ont des problèmes de crédibilité ou autre, ça vous tenterait pas de pouvoir dire que votre ordre professionnel, il y a un pouvoir sur vous autres, puis que si vous voulez avoir une carte, puis si vous voulez pratiquer, puis qu'après ça, les médias diraient, ben si t'as pas ta carte, tu peux pas. Je veux dire, moi, je suis dans l'opinion totale, là. Je suis un chroniqueur, je suis un podcaster. Je me fais pas croire que j'ai des... C'est que je me mets le plus possible un standard de journaliste, mais je l'ai pas à carte, puis je l'aurai pas parce que j'ai pas fait la formation que je trouve que n'importe qui peut faire, mais peu importe. Ça fait que ce travail-là, comprenez-moi bien, de journaliste, je trouve qu'il est très bien fait. Il reste que c'est des gens qui, d'après moi, une partie du problème de ce que je suis en train de vous parler, c'est que c'est du monde qui, tout à coup, s'invente des expertises qu'ils n'ont pas. Parce que tu ne peux pas devenir un expert juste à observer ce qui se passe. À un moment donné, tu peux passer 20 ans à regarder la politique municipale. Si tu n'as pas été élu, faire une campagne, tu ne seras pas un expert. Tu vas être un expert du commentaire, tu vas être un expert de l'observation. Mais si tu ne rentres pas aussi creux... Ça fait que c'est comme... Moi, en tout cas, c'est ça qui me dépasse. C'est qu'ils peuvent faire une erreur après l'autre, puis c'est pas grave. De toute façon, demain est un autre jour. Un peu hallucinant. Mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Puis je le répète, la qualité de journalisme n'en souffre pas jusque dans une certaine mesure, parce que je trouve que ça se passe très, très bien. J'ai vraiment aucun problème là-dessus, mais je suis un gros maniaque de leur travail, d'ailleurs. Je suis un gars qui lit tous les jours, je suis là-dessus, autant Québec qu'en France. Ces critiques-là anti-journalistes, je les trouve niaiseuses. Mais il reste que tu vois une fois de temps en temps, là, la ligne est mince, puis que c'est probablement le problème d'expertise qui est soulevé à ce moment-là. Que quand on est dans le travail, puis quand on se dit hey, « moi, je vais couvrir ça, puis je vais faire mon enquête de telle façon », bien, on peut peut-être s'inventer une expertise qu'au final, on n'a pas, puis ça donne les résultats qu'on connaît. Mais bon. Alors, aujourd'hui, le grand Nostradamus que je suis voit encore une fois, comme à chaque 6 mois, une nouvelle dans TVANouvelles.com à l'effet qu'il y a une recrudescence depuis les 2 dernières années de près de 25 % d'antidépresseurs chez les jeunes. Alors, on pense que la pandémie peut avoir rapport avec ça, mais moi, je vous dirais, la vie en général a rapport avec ça, parce que c'est depuis des années qu'à chaque 6 mois, c'est une nouvelle, et ça fait des années que le lendemain, ce n'est plus déjà une nouvelle, parce que, et c'est mon point de ce matin, c'est particulièrement fondamental les raisons pour lesquelles les antidépresseurs partout, toutes les clientèles sont touchées. Là, on parle des jeunes. Les plus vieux, ça va être pareil. Vous allez voir, là, ça va sortir d'une journée à l'autre. Puis ça va être encore la même affaire. Et moi, je crois que c'est beaucoup plus existentiel qu'on pense. C'est pas du tout circonstanciel. Puis hier, j'avais une discussion avec un de mes chums au lunch. Puis c'était très intéressant. Parce que lui, ce qu'il disait, puis je reprends ça, si tu veux, je rebondis là-dessus. C'est que avoir 20 ans aujourd'hui, moi, j'ai un de mes chums, il va avoir 60 cette année, puis il me dit souvent, on est-tu chanceux d'avoir cet âge-là puis de ne pas avoir 20 ans? C'est drôle, hein? Ça doit être bien la première fois de l'histoire de l'humanité que du monde trouve ça une chance d'avoir 60 ou 70 ans plutôt que d'en avoir 20. Puis je suis assez d'accord avec lui parce que, et c'était la discussion hier avec mon chum, il disait, ce qui se passe actuellement si tu as 20 ans, là, c'est le manque de perspective. Parce que, puis regardez bien les exemples que je vais vous donner. Il dit, si tu as 20 ans aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu viens d'une famille qui a été déconstruite. C'est qu'en partant, ton image de la famille ou l'idée romantique du mariage pour la vie, c'est quelque chose qui n'existe pas, là, parce que ce n'est pas ce que tu as vécu direct. Deuxièmement, quand tu t'en vas sur le marché, ben, tu tombes avec Tinder. Tu tombes à une place où c'est l'équivalent des médias sociaux, mais de la rencontre, c'est-à-dire tu vois tout et son contraire. La période très « je te présente un ami ou autre que mes parents ont connu » ou « mon père a connu ma mère dans une cabane à sucre avec des amis conjoints, blablabla », je te dis pas que ça n'existe plus, mais vous connaissez mon propos. Tinder, ce que ça a fait, c'est que ça a tué la première vitesse. Maintenant, il n'y a plus un gars qui approche une fille sans passer par Tinder. C'est rendu presque un miracle parce qu'en plus, les discothèques n'existent pas. Bref, c'est tout, c'est tough. Pour un jeune aujourd'hui, de se matcher, c'est une jungle dans laquelle habituellement je trouve qu'ils ont l'air, parce que moi, j'en connais pas des amis de 20 ans, mais j'ai mon neveu, ma nièce, puis je trouve que, tu sais, bon, ça se passe plutôt bien. Mais ça reste une jungle plus que jamais. Tu sais, ça, je pense que tout le monde peut le dire. Ça fait que tu peux bien nager dans la jungle en question, mais pas tant. Ça fait que dans un premier temps, l'exemple que tu as eu pour beaucoup de monde, c'est une famille qui s'est brisée. Donc, la durabilité, tout ça, c'est des notions de Charbel. Quand tu viens te matcher, c'est un défi, genre, comme il n'y a jamais eu. Troisièmement, le nombre de jobs qu'on change dans une vie, moi, je vous le dis souvent, mon grand-père avait la même femme, changeait pour les mêmes marques d'auto, puis la même job pendant 60 ans. C'est un des trois aujourd'hui, c'est un miracle. Puis, je veux dire, c'est pas un must de changer pour la même marque d'auto, mais quand même, ben, la job, c'est quelque chose, là. Il y a quelques années de ça, on disait que la moyenne des gens, c'est qu'il y avait 7 jobs dans leur vie. Tu sais, t'en as 2-3 étudiants, puis 2-3 après, minimum. Moi, c'est un record, là, mais... Ça fait que là, tu fais OK. Donc là, il y a une instabilité, là, qui n'était pas du tout le cas avant. C'est rare, là, du monde qui ont la même job, ils sortent de l'école, ils ont une job, puis après ça, ils prennent leur retraite. Hey! Pour le même employeur, là, ça frôle le miracle. La même job, oui, mais la même fonction, si tu veux. Mais... Puis après ça, regarde bien ce que tu rajoutes. Si tu as 20 ans aujourd'hui, là, c'est techniquement impossible de t'acheter une maison. Depuis les années 80, les salaires ont à peu près pas augmenté. Là, il y a comme un burst là, récemment parce que tout à coup, pénurie de main-d'œuvre. Mais les maisons ont, on parle peut-être 4 fois. 5 fois. Je veux dire, moi, en 98, je pense que j'ai acheté un condo de 1100 pieds carrés au centre-ville pour 94 000 piastres. Aujourd'hui, c'est rendu 1000 piastres du pied carré. Faites le calcul. 10 fois. Ça fait que c'est hallucinant. Ça fait que même si les salaires ont un peu augmenté, le prix des maisons, il n'y a aucune commune mesure. Mon père a payé sa maison 8 000 $, puis cette année-là, il avait fait 10 000 piastres. Ça fait qu'une maison, tout à fait normale, ça coûtait 1 an de salaire. Vous voyez le décompte? Ça fait que pour pouvoir acquérir une maison, ça va arriver comme à New York, il y a deux options. A, tes parents t'aident pour la mise de fonds. Donc, ça met une pression à ses parents. Ou B, il va falloir que les banques s'ajustent comme en Suisse où tu peux mettre ton hypothèque sur deux générations. Je vous niaise pas, là. C'est des hypothèques de 60 ans. Ça fait qu'à un moment donné, c'est toi qui paye, puis un jour, tu cèdes ta maison à tes enfants qui, eux autres, finissent de la payer. Puis tu rajoutes une quatrième couche qui s'appelle le dérèglement climatique, où à quelque part, c'est game over. Puis là, je te parle pas des médias sociaux, puis de un qui dit que c'est vrai, l'autre que c'est plus vrai, que bon, blablabla. Bref, t'as 20 ans aujourd'hui, là. La perspective d'un peu de stabilité, puis de choses à laquelle tu peux te rattacher en termes de croyances, parce que les croyances religieuses, elles, tchabaille, ont été remplacées par des affaires beaucoup plus édifiantes, comme l'horoscope, par exemple, ou autre. Ça fait que, désolé, là, mais c'est tout sauf Jojo. Et la seule clé pour se tirer d'affaires, c'est d'être capable d'être super à l'aise, plus que jamais dans l'histoire probablement de l'humanité, avec le changement lui-même, chose qui n'est ni enseignée, ni même abordée. Moi, je vous parle de ça aujourd'hui comme étant une clé incroyable pour vivre à son époque. Qui vous parle de ça? Personne. Tout comme... Moi, je rêve que quelqu'un me dise « Hey, un de mes chums a écrit un livre là-dessus, ou il y a un prof qui parle de ça à telle école, ou il y en a un autre qui a intégré ça dans son cursus scolaire, puis le ministère va... » Zéro. Puis quand tu regardes à quel point c'est fondamental, pourquoi c'est une nouvelle récurrente, les antidépresseurs? J'essaie de vous tracer ma théorie, c'est une théorie, hein? Ça, c'est de un. Puis pourquoi personne attaque le problème? Bien, parce que c'est fondamental. C'est pas juste plus d'impôts, moins d'impôts. On ferme les bibliothèques, on ouvre une bibliothèque, on applaudit, on coupe un ruban disant que voilà la rue Sainte-Catherine, on a élargi les trottoirs. C'est pas du concret, mais sauf que c'est du fondamental. Ça fait que si t'es pas capable d'aller vraiment à la source de ça, ce qui est gazeux par définition, ça fait que moi, je suis désolé, mais je suis convaincu de mon point. Ça fait que ça prend vraiment des gens qui commence de plus en plus à dire « Il faut absolument qu'on rende le plus de monde possible à l'aise dans le changement. » Et là, j'en entends dire « Ouais, non, mais moi, j'ai toujours été rébarbatif au changement. Puis je connais de mes amis qui n'aiment pas le changement, puis ça leur réussit bien. » Ben oui, ils viennent d'une autre époque. Moi, je me souviens, combien de fois avec Éric Duhaime, quand on était à radio, on avait un clash où, ce que dans le fond, on était à l'opposé. C'est-à-dire que lui, c'était un gars archi-conservateur, le moindre changement. Juste dans notre façon d'animer l'émission. Moi, j'animais l'émission, j'avais un petit pacing, puis je m'en sacrais. Des fois, j'avais même pas d'invité pendant 4 heures. Tout arrivait, c'était comme... Éric, le ciel, mettons, on disait « Hey, finalement, tantôt, je vais te parler de mon bloc. » Il fallait qu'il l'écrive, que là, le bloc changeait. C'est pas un défaut, mais c'est une caractéristique qui, aujourd'hui, reçoit une résonance beaucoup moins forte. Grave. Moi, je recommande à aucun jeune d'être un conservateur qui veut pas que ça change. Alors, tu peux vouloir revenir en arrière à certains égards, c'est deux propos très différents. Tu peux dire « je trouve qu'il y a des affaires qui étaient mieux avant ». C'est pas chaque progrès qui est meilleur. Le progrès humain, technique, pensez-vous que c'est bon quand tu regardes le climat? C'est un désastre, là. Fait que d'être ce qu'on appelle réactionnaire, moi, c'est pas un gros mot pour moi, tu peux des fois dire « c'était mieux avant » sur tel aspect. Mais ta propre attitude face au changement, Tu veux te bâtir une mentalité comme quoi le changement, c'est zéro. C'est un cul-de-sac atroce. En tout cas, aujourd'hui, j'ai essayé de vous le démontrer. Je vous souhaite d'être à l'aise là-dedans. Mais ça va prendre de plus en plus de monde qui... Parce que ça devrait être à l'école. Ça devrait vraiment être à l'école, au primaire, là. Au primaire, il devrait avoir une espèce de cours que je ne sais même pas quel nom donner à ça. Je ne suis pas un pédagogue. Mais ce que je sais, c'est que... C'est totalement essentiel, c'est à la base. Parce que tout le bordel qu'on peut constater aujourd'hui vient beaucoup de ça. Il vient de l'incapacité à être contrarié, ça c'est au plan psychologique, puis le manque de perspective, puis l'idée qu'on est capable de se projeter en se disant, ben voilà, si aujourd'hui il y a des problèmes, j'enlève le climat de ça, là, parce que ça c'est pas individuel, là, c'est une réponse collective. Mais pour les autres exemples, il faut que tu sois capable de dire, ben écoute, peut-être que je ne serais pas capable d'acheter une maison, ça fait que je vais me financer autrement, je vais préparer une retraite d'une autre façon. Tu sais, il y a quand même... Mais si tu fais juste te mettre les deux mains, là, bien comme il faut, ses oreilles, puis ah, tu ne veux pas entendre ce qui se passe parce que tu détestes le changement, ben imagine le dating, imagine tout ce que je viens de vous énumérer. Je veux dire, c'est pour ça, là. Après ça, comme, hey, donnez-moi une pilule. Je peux pas y blâmer, mais il faut que ça soit attaqué dans les fondements même de c'est quoi une personne. Parce qu'on n'est pas des robots. Voilà, bonne journée.